La Grande Motte, une station balnéaire du sud de la France. Il est 3h du matin ce dimanche 22 avril 2007 quand un couple quitte le Vénusia, un club échangiste. L'homme s'appelle Paul Missler. C'est un ex-banquier de 60 ans. Il est accompagné de sa jeune épouse de 20 ans, sa cadette, Diane.
Lui passe devant, part devant, et elle est un peu en retrait.
Paul Missler avance le premier sur le chemin qui mène au parking où la voiture du couple est garée. Diane, elle, est à la traîne à quelques centaines de mètres. L'obscurité est totale. Impossible pour Paul Missler d'apercevoir l'ombre d'un homme qui l'épie dans la nuit.
Cet homme est tapis entre les voitures sur le parking qui jouxte la boîte de nuit. Il attend sa proie.
Paul Missler s'avance vers son véhicule quand soudain la flèche d'un fusil harpon lui transperce le corps.
Le retraité est touché à l'épaule. Il a très mal, donc il crie et il titube. Il a du mal à reprendre un petit peu ses esprits. Et à ce moment-là, l'homme qui était donc tapis dans l'ombre se projette sur Paul Missler et lui assène une vingtaine de coups de couteau.
À quelques dizaines de mètres de là, un jeune homme est alerté par les hurlements de Paul Missler. Ce témoin le voici. Il s'appelle Jérémy et il comprend qu'un drame se joue sous ses yeux.
Plus je m'approchais, plus je voyais des gestes en fait, qui ressemblaient à des coups de couteau. Et donc là, je décide de m'avancer en courant pour porter secours. Il lâche encore quelques soupirs. Je le pose au sol, j'essaye de le maintenir éveillé. Là, sa femme, pareil, se met accroupie et essaye de secouer son mari.
Je croyais qu'il veut me parler, mon mari, parce que je me suis approchée de mon mari. Mais je croyais vraiment qu'il veut me parler, parce que... Il essaye de parler peut-être, mais je comprends pas ce qu'il me disait parce que je l'ai touché partout pour savoir. C'est là que je compris que c'était grave.
Averti par Jérémy le témoin, les policiers municipaux de la Grande Motte préviennent les secours. Mais à leur arrivée, les sapeurs-pompiers ne peuvent que constater le décès de Paul Missler. Diane, son épouse, est en état de choc.
Elle le semble vraiment, vraiment très, très, très peinée, surprise aussi de cette agression. Elle explique donc aux enquêteurs qui vont immédiatement l'interroger lorsqu'ils arrivent qu'elle n'a rien vu ou pas grand-chose, si ce n'est au loin un individu partir en courant.
Qu'il était plus grand qu'elle, c'est à peu près tout ce qu'elle pourra dire en termes de description physique de l'agresseur de son mari.
Un homme en chemise noire. Très vite, la section criminelle de la gendarmerie est sur place. Le quartier est bouclé. Après tout, le tueur n'est peut-être pas très loin.
Les gendarmes se lancent à la poursuite du meurtrier.
Mais il ne va pas aller très très loin. Il cherche sa voiture. Il ne retrouve pas sa voiture. On est donc en périphérie de la Grande Motte. Il fait nuit noire. Il ne sait plus où il a garé son véhicule.
Il va se perdre dans le périmètre de la boîte de nuit.
Il fuit durant quelques mètres et il va se cacher sous une des premières voitures qui se présente à lui, la moitié du corps caché.
Il est repéré par une patrouille de gendarmerie à peu près à 400 mètres de l'endroit où s'est déroulée l'agression de Paul Missler.
Les gendarmes procèdent à son arrestation. Le suspect est en état d'ébriété. Il décline immédiatement son identité. Il s'appelle Franz Diegelmann, il a 40 ans et il est serveur à la Grande Motte.
Il dit aux gendarmes, immédiatement lorsqu'il est arrêté, alors qu'il a sa chemise en sang,
qu'il a tué par amour, pour l'amour de Diane, qu'il a tué Paul Missler.
Il aurait agi par jalousie, parce qu'il aurait une relation avec, avec la femme de la victime.
Franz Diegelmann aurait donc assassiné le mari gênant de sa maîtresse, Diane Missler.
On a le trio qui va être obligatoirement... on sait, en tout cas, les enquêteurs savent que c'est dans ce confinement passionnel que s'est déroulé le meurtre.
Désormais, pour les enquêteurs, toute la question est de savoir si Diane Missler, la femme de la victime, était au courant du plan de son amant. Mais l'état de la jeune femme ne permet pas aux gendarmes de l'entendre immédiatement.
Elle était tellement en crise d'hystérie et de panique que les pompiers lui avaient donné des sédatifs. Donc elle est entendue dans un premier temps. Les gendarmes disent qu'ils ne peuvent pas l'entendre davantage compte tenu de son état au regard des médicaments que lui ont donné les pompiers sur place.
Tout s'écroulait.
Les gendarmes autorisent Diane à regagner son domicile à la Grande Motte. Là, l'attend son fils de 7 ans qu'elle a eu avec Paul. Diane lui annonce alors la terrible nouvelle.
Je ne vais pas te donner des détails, mais je dis que papa a été assassiné.
C'est en juin 1997 que Diane Larquier rencontre Paul Missler dans un avion au cours d'un voyage dans son pays natal, Madagascar. Une idylle naissante immortalisée sur ses photos.
Il sait bien parler aux femmes. C'est un séducteur, en plus c'est un bel homme. C'est un très très séducteur. Voilà. Il m'a séduit.
À cette époque, Paul Missler a 50 ans et il est en couple depuis plus de 10 ans. Diane vit elle aussi en couple de son côté. Elle travaille dans les ambulances comme brancardière et Paul est directeur d'un grand groupe bancaire à Montpellier. À l'issue de ce séjour, les deux tourtereaux retournent chacun de leur côté dans leur vie en France. Et c'est le quinquagénaire qui va reprendre contact avec Diane.
Il était amoureux, oui. Il m'a fait une déclaration. C'était pas un coup de foudre, c'est un amour sincère.
Lui a quitté sa femme, elle a quitté son compagnon et ils se sont retrouvés, ils se sont mariés.
Le 1er juillet 1998, le couple se marie dans la plus stricte intimité. Ils s'installent dans la station balnéaire huppée de la Grande Motte. Ici, Paul investit dans deux magasins de vêtements dont il laisse la gérance à sa femme. En 1999, un petit garçon naît de leur union.
Il était heureux, il était tout beau. Il était tout ému, il était tout content.
La vie s'organise entre leurs activités à la Grande Motte et les voyages.
C'est une baie qui est unique au monde.
Le couple nage dans le bonheur, comme l'attestent ses vidéos familiales.
Oh, t'es bête, hein, toi.
À la réunion avec sa maman. Doucement quand tu relèves.
Mais le temps du bonheur pour la famille Missler va prendre fin brutalement dans la nuit du 22 avril 2007 où Paul Missler est assassiné sur ce parking. Dans son rapport, le médecin légiste dénombre 20 plaies à l'arme blanche et il conclut que
« Sans équivoque, vu l'acharnement sur la victime, l'agresseur avait la volonté de tuer. »
Ça a été en réalité une furia criminelle. Il y a le coup de fusil harpon et ensuite la vingtaine de coups de couteau.
Une folie meurtrière dont va devoir s'expliquer Franz Diegelmann. Il est 10h, ce 22 avril 2007, quand dans les locaux de la gendarmerie de Lunel, l'interrogatoire du meurtrier présumé de Paul Missler commence.
On lui demande d'expliquer sa motivation. L'amour qu'il a pour Diane ne suffit pas. Encore faut-il qu'il explique.
Et le récit que va livrer Franz Diegelmann est inimaginable. À partir de 20h,
racontez-moi votre... Il va dire qu'il voulait mettre fin au calvaire de Diane Mitzler, qui était victime d'orgies sexuelles.
Que ce qu'elle fait, elle déteste le faire, et que ça lui est imposé par cet homme qui se montre extrêmement violent.
Il décrit qu'un jour, notamment, elle était blessée au niveau des fesses parce qu'il lui aurait arraché son string un peu trop fort, un peu trop brutalement.
Dans l'esprit de Franz Diegelmann, Paul Missler vendait sa femme. Elle était frappée, violée, obligée même de se prostituer. Hein.
Il décrit un espèce de couple diabolique, enfin en tout cas d'un mari diabolique qui persécute cette femme dont il est amoureux.
Franz Diegelmann dresse devant les gendarmes le portrait d'un mari odieux et pervers. Les enquêteurs décident alors de fouiller un peu plus la vie cachée de Franz Diegelmann et de Diane. Leur histoire commence en 2005, 2 ans avant le crime, à la Grande Motte. À cette époque, Franz est serveur dans une pizzeria qui jouxte le magasin de vêtements d'une jeune et belle malgache, Diane Mitzler.
Au départ, dans une relation amicale de commerçants voisins.
Et voici ce que raconte Franz.
Le matin, je lui balayais son allée. Et vers 11h, on buvait. Moi un café, elle un thé citron. Nous parlions de tout et de rien.
De cette relation qui est une relation amicale va naître une relation qui, pour Franz en tout cas, va devenir une relation amoureuse.
Tous les matins, à 9h, Diane passait chez moi. Nous faisions l'amour.
Diane, tous les matins, lui amenait par exemple ses croissants, un pain au chocolat, petit déjeuner amoureux partagé parce que Franz prenait son service un peu plus tard qu'elle, donc elle se levait plus tôt, donc elle passait chez lui et...
Quelques mois plus tard, toujours selon Franz, Diane évoque pour la première fois le calvaire que son mari lui ferait subir.
Début juin 2006, Diane n'arrive pas. Vers 10h, elle m'appelle en pleurs et me dit de la rejoindre. Arrivée dans sa voiture, Diane tombe dans mes bras. Elle me dit qu'elle a été violée par son mari et 2 hommes.
Elle expliquait qu'elle avait une vie très malheureuse, donc de femme soumise et battue, qui ne faisait pas ce qu'elle voulait de son corps.
Pire, Franz Diegelmann raconte aussi que sa maîtresse lui aurait confié les nombreux sévices que son mari lui aurait infligés.
À chacune de ces révélations, j'étais dans une souffrance terrible.
Il fallait à tout prix en terminer avec ce que vivait, ce que lui disait qu'elle vivait, Diane Mitzler.
Franz Diegelmann explique qu'il va nourrir un insatiable désir de vengeance à l'encontre de Paul Missler, le mari de Diane. Jusqu'à cette nuit du 21 avril où il décide de passer à l'acte. Franz raconte que ce soir-là, il finit son service vers 1h30 du matin. Mais au lieu de rentrer chez lui, l'homme s'arrête au bar du casino de la Grande Motte.
Quand il arrive au bar du casino, il est pas bien. Selon son expression, il gamberge grave.
Et donc ce soir-là, il a beaucoup bu.
Il a imaginé toute la soirée, et l'alcool aidant en plus, cette femme entre les mains d'autres hommes.
Il va ruminer, en quelque sorte, ressasser les plaintes et les complaintes de Diane Mitzler, les souffrances, les blessures de cette dernière.
Et il est là et il est comme un fou. Il est comme un fou.
Vers 2h du matin, Franz quitte l'établissement et prend la direction de l'appartement où résident Diane et son époux.
Là, il s'aperçoit que les lumières sont éteintes et il constate aussi l'absence de la voiture du couple. Il attend un peu, il voit personne.
Pour Franz, si le couple n'est pas là un samedi soir à 2h du matin, c'est que Paul a encore forcé Diane à aller dans un club échangiste.
À un moment donné, il n'a pas le recul nécessaire pour faire la part des choses. Et il accomplit l'irréparable.
Franz Diegelmann remonte alors dans son véhicule et prend la direction du Vénusia, là où va se jouer le drame.
Il prend son couteau qui est dans son vide-poche, dans le vide-poche de sa voiture, et là il va se planquer entre deux voitures, il guette sa victime.
La suite, les gendarmes la connaissent. Franz Diegelmann aurait attendu que Paul Missler soit à sa portée. À 3h20, il aurait tiré, puis se serait jeté sur lui et lui aurait asséné 20 coups de couteau. Un couteau qu'il affirme avoir jeté dans sa fuite et qui ne sera jamais retrouvé. Donc, Franz Diegelmann aurait agi pour sauver Diane Missler d'un tortionnaire. Seulement, pour les gendarmes, il y a quelque chose qui cloche dans le récit de Franz Diegelmann, car le portrait brutal et pervers qu'il dresse du mari Paul Missler ne colle pas avec la réputation du banquier.
Il a été directeur de banque, il a présidé une association française donc, des banquiers. C'est un homme bien établi, c'est un notable. C'est quelqu'un qui est respecté donc, dans la grande motte.
Comme il est d'usage après l'audition d'un suspect, les gendarmes procèdent ensuite à la perquisition du domicile de Franz Diegelmann.
Ben, on va retrouver quelques éléments qui tentent à confirmer l'existence d'une relation entre Franz et Diane.
Près du lit, il découvre des bas de femme. Franz affirme qu'ils appartiennent à Diane Missler. Sur la table à repasser, il y a aussi la carte bleue de sa maîtresse. Mais c'est dans un tiroir que les gendarmes vont faire une découverte qui semble capitale. Celle d'un croquis.
C'est à vous, ça ? Venez voir.
Oui, on va retrouver un plan qui situe le lieu de l'agression assez précisément.
C'est le plan, en fait, des lieux du crime, où on voit la discothèque, l'emplacement de la voiture. On voit beaucoup de détails.
La présence de ce croquis semble signer une préparation du crime. La préméditation de ce crime. Après, on peut se poser aussi la question de savoir qui a dessiné ce croquis. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Enfin, on n'en sait rien à ce moment-là.
Franz Diegelmann aurait-il agi poussé par une pulsion meurtrière comme il le prétend ? Ou aurait-il prémédité la mort de son rival ?
Il ne dit pas que c'était bien réfléchi, que l'exécution, parce qu'il s'agit d'une exécution, a été réfléchie, préméditée. Absolument pas. Il dit qu'il a agi sous le coup de la colère et par amour pour Diane Missler.
À l'issue de sa garde à vue, Franz Diegelmann est mis en examen pour assassinat et écroué à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. Mais l'enquête sur la mort de Paul Missler n'est pas bouclée pour autant. Car les gendarmes se demandent bien si Diane Missler n'aurait pas joué un rôle dans ce scénario macabre. Même si Franz Diegelmann, son amant, le dément fermement.
Jamais il ne dira que Diane lui a demandé quoi que ce soit. C'est une initiative propre, il dit qu'il a pété les plombs ce soir-là, qu'il n'en pouvait plus.
J'ai agi tout seul, en pleine connaissance de cause, elle n'a rien à voir dans cette histoire.
Le mercredi 18 mai 2007, Diane Missler est convoquée pour la première fois à la gendarmerie en qualité de simple témoin. Et face aux gendarmes, surprise, elle va démentir catégoriquement ce que dit son amant. Non, Paul, son mari, ne l'a jamais poussée à se prostituer.
Mon mari ne m'a jamais obligée de fréquenter le prostitutionniste. Moi, ma vie privée, ma vie intime, avec mon mari, j'en parle pas, Franz Diegelmann.
Et comment il savait que vous fréquentiez ce club alors, lui ?
Il doit nous pister, parce que Franz, il passe son temps de nous surveiller en permanence.
Diane n'aurait donc jamais parlé de sa vie libertine à son amant.
Donc c'est notre dada, c'est notre vie. On fait mal à personne.
Elle explique aux gendarmes que son mari n'est pas un monstre du tout, du tout.
J'aime mon mari.
Et Diane de rajouter de surcroît qu'elle n'avait aucun sentiment pour Franz, contrairement aux déclarations de celui-ci.
Franz Diegelmann, elle dit que c'est son amant comme ça, mais sans plus.
Je ne veux pas être méchante, c'est un toutou qui attend quelque chose.
Pour Diane, Franz Diegelmann est un mythomane.
Je n'ai jamais demandé à Diegelmann de faire tuer mon mari. Parce que je n'ai jamais l'intention de tuer mon mari.
Jamais.
Jamais. Cet homme a tout inventé. Parce que cet homme, je crois qu'il n'a pas de vie.
les déclarations de Diane Missler sont diamétralement opposées à celles de son amant. Qui dit la vérité ? Pour le savoir, le parquet de Montpellier ordonne l'ouverture d'une information judiciaire pour déterminer le rôle de Diane Missler dans cette affaire. L'enquête commence. Et très vite, à partir de l'analyse des factures téléphoniques de la jeune femme, les enquêteurs acquièrent la conviction que Diane ment.
La veille du crime, la veille de l'assassinat de Paul Missler, Diane Missler et son amant vont être en contact téléphonique ou vont s'envoyer des SMS.
Et là, les gendarmes se disent « il y a un loup ».
Pourquoi cette femme qui prétend que Franz Diegelmann est un amant de passage l'appelle-t-elle aussi souvent ? Étrange. Les gendarmes placent alors Diane Missler sur écoute téléphonique.
Là, il tombe quand même sur des conversations édifiantes.
On s'aperçoit qu'elle a de nombreux amants.
À travers toute la France, voire même à l'étranger.
Tout tourne autour de deux choses dans les discussions. Le sexe et le pognon. Le sexe et l'argent.
Son mari est mort, mais bon, ça n'a pas l'air de la chagriner.
Elle supplie un de ses amants de lui envoyer de l'argent.
Parce que les chaussures, ça ne marche plus très bien depuis que les journaux ont signalé cette affaire.
L'amant lui envoie de l'argent, et puis quand on regarde ce qu'elle fait dans les jours qui suivent, elle va au restaurant, elle va en boîte, et elle est avec un autre de ses amants.
Diane Missler n'a pas le comportement qu'on attend de celle qui vient de perdre tragiquement l'homme qu'elle aime. La veuve dérange, mais son comportement ne suffit pas à faire d'elle une criminelle, à moins que l'enquête ne démontre que Diane pouvait avoir de bonnes raisons d'éliminer son mari. Les gendarmes vont fouiller la vie du couple pour le savoir. Et ils ne vont rien découvrir qui puisse étayer cette thèse, bien au contraire. Car peu de temps avant la mort de Paul Missler, le couple avait pour projet de partir s'installer à La Réunion. D'ailleurs, au mois de juillet 2006, soit moins d'un an avant le meurtre de Paul, le couple achète cette maison face à la mer. Ils y retournent en janvier 2007 pour emménager. Mais trois mois plus tard, le meurtre de Paul Missler signe la fin de cette nouvelle vie.
Il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas qu'on enlève son père.
Rien n'indique dans l'apparente vie rêvée du couple que Diane Missler aurait pu donner l'ordre à son amant d'éliminer son mari.
Puis de pleurer, sangloter, je ne sais plus quoi lui dire pour les calmer.
Une vie de voyage, une vie d'argent, ils n'ont aucune difficulté financière et a priori ils ont l'air de bien s'entendre.
L'enquête sur le rôle supposé de Diane Missler dans l'assassinat de son mari est dans l'impasse. Mais six mois plus tard, elle va rebondir. Les enquêteurs ont toujours eu le sentiment que Franz Diegelmann protégeait Diane Missler. Du fond de sa cellule, le meurtrier transi d'amour passe son temps à écrire à celle qu'il aime.
Il écrit deux fois par jour, trois fois par jour, multiples reprises à Diane. À la fois, il lui crie son amour et il lui parle de ses projets.
Des lettres, mais d'une insipidité insupportable à lire.
Il m'a même écrit « Diane, il faut que tu mens, qu'on va vivre ensemble » quand on était en prison.
Des lettres où, au milieu des déclarations d'amour, Franz Diegelmann dit regretter son geste.
Et surtout, mais c'est ça qui est important, il lui demande pardon.
Oui, il s'excuse.
Et après, il ne pense plus au pardon, il pense qu'à l'amour qu'il lui porte et à l'espoir qu'il a qu'elle sera là à la sortie.
Des lettres qui restent sans réponse.
Elle ne répond jamais. Elle ne répond jamais, Diane Missler. Elle ne répond jamais au courrier de Franz Diegelmann.
Parce que j'ai pas quelqu'un qui a tué mon mari, j'ai pas envie de lui écrire. Et puis lui, c'est pas... C'est Franz Diegelmann, hein, il n'est pas... C'est pas l'amour pour moi.
Seulement, l'indifférence de Diane Missler va jouer contre elle. Le 6 octobre 2007, soit six mois après le meurtre de Paul Missler, la juge qui instruit le dossier va changer le cours de cette affaire.
Ce que ne sait pas Franz Ziegelman, c'est que la juge d'instruction, elle reçoit le courrier, elle ouvre le courrier, elle regarde ce qui se passe. Donc elle a toutes les lettres de Franz Ziegelman, lettres enflammées, écrites pour Diane Missler. Donc elle trouve curieux également, la juge d'instruction, que Diane Missler ne réponde jamais.
Alors, la juge d'instruction convoque Franz Ziegelman. Lors de cette entrevue, elle lui lit les déclarations faites aux gendarmes par Diane Missler à son sujet.
Et en fait, il apprend, Franz Ziegelman, à ce moment-là, que Diane Missler a d'autres amants.
Qu'elle en avait d'autres en même temps que lui.
Et la juge énonce en un tous les propos peu flatteurs que Diane Missler tient au sujet de Franz.
Je ne l'aime pas, je ne l'aimerai jamais, j'aimais mon mari ne m'a jamais prostituée, ne m'a jamais frappée, ne m'a jamais obligée à m'offrir à d'autres hommes.
Franz Ziegelman accuse le coup.
Il réalise ce jour-là que si Diane ne l'aime pas, il a été manipulé.
C'est à ce moment-là que Franz Ziegelman prend conscience qu'il a tué un homme en fait parfaitement respectable.
Peut-être l'homme qu'il a tué n'avait pas la personnalité que Diane lui décrivait. Donc là, c'est le vide.
La juge a marqué un point ce jour-là. Quand après l'audition de Franz Ziegelman, et quand elle lui a fait lire ce fameux procès-verbal où elle dit très clairement, où Diane dit très clairement qu'elle en a rien à faire de Franz, la juge a observé le comportement, l'attitude de Franz. Il est KO technique, il est KO debout.
Il va donc retourner en cellule, il ne va rien avouer immédiatement devant la juge d'instruction.
Franz Ziegelman, qui croyait que ses juges lui accorderaient le pardon après avoir tué un tortionnaire, sait d'ores et déjà qu'il encourt la réclusion à perpétuité. Deux jours plus tard, il reprend son stylo, mais cette fois-ci pour écrire au juge d'instruction. Dans ce courrier, il accuse Diane Missler.
Il va impliquer Diane Missler de façon officielle en disant, et c'est sa thèse encore aujourd'hui, que Diane Missler est la commanditaire du meurtre de son mari.
Diane aurait-elle en fait manipulé son amant ? Dans sa lettre au juge, Franz explique comment la jeune femme serait arrivée à ses fins. Tout commence par un week-end en amoureux, à Paris, une semaine avant le meurtre.
Quelques jours avant les faits, en début de semaine, pour la première fois depuis qu'ils ont cette relation ensemble, ils vont aller passer un petit week-end en amoureux à Paris.
Petit câlin, restaurant, Paris, la grande vie.
Elle lui fait goûter à ce bonheur-là d'une femme libre, qui est libre de l'aimer.
Et tout ça est ponctué, d'après toujours les déclarations de Franz Ziegelman, de moments d'angoisse intense où elle se disait « Mon Dieu, quand je vais revenir, ça va être un calvaire ».
Et Diane va savoir manipuler Franz, faire monter crescendo la pression.
La semaine prochaine, samedi prochain, il va encore m'emmener au Vénusia, il va encore m'offrir à d'autres hommes.
Et Franz raconte à ce moment-là comment Diane lui aurait mis en tête un plan diabolique.
Arrête de dire que tu m'aimes. Toi, tu parles, mais tu n'agis pas. Moi, j'ai besoin d'un homme qui agisse maintenant.
Alors que ce type a cette femme dont il est fou amoureux.
Pour quiconque a éprouvé un sentiment amoureux pour quelqu'un, c'est insupportable.
Elle le rend fou pendant ce week-end.
C'est pas pour rien. Ça a été fait pour...
Sciemment, vous pensez.
Absolument.
Dans son récit, Franz relate alors les propos que Diane Missler lui aurait tenus et qui auraient, selon lui, signé l'arrêt de mort de son mari.
Elle lui dit « Fais en sorte que samedi prochain, ce soit la dernière fois qu'il bande. »
Ça veut dire « Si tu m'aimes, tu fais quelque chose. »
Elle lui demande de le tuer. C'est ce qu'il comprend, en tout cas, c'est ce qu'il entend.
Ça veut dire ce que ça veut dire.
Et pour donner un élément tangible à la justice, Franz accuse Diane d'être celle qui a dessiné le croquis retrouvé chez lui. Le plan du parking du Vénusia, où s'est joué le guet-apens qui a coûté la vie à Paul Missler.
À ce moment de l'histoire, la vérité de Franz Ziegelman, c'est qu'elle est la commanditaire de ce crime.
Et pour montrer au juge qu'il dit vrai, Franz raconte que 6 mois avant les faits, d'autres tentatives de meurtre auraient été envisagées par Diane. 2 autres scénarii qui ne sont pas allés jusqu'au bout.
Une première fois, ils ont envisagé l'hypothèse de l'empoisonnement.
C'était rendu dans la région toulousaine, chez la meilleure amie donc, de Diane Missler, pour récupérer une poudre maléfique.
Il donne les références, l'adresse, le nom et en gros la date.
Il raconte également que Diane Missler l'a missionné pour rechercher un tueur.
Un tueur à gages qui l'aurait contacté, un Corse, un vieux voyou Corse.
Désormais, les déclarations de Franz Diegelmann scellent le destin judiciaire de sa maîtresse. Le 14 novembre 2007, Diane Missler est interpellée et placée en garde à vue.
Les déclarations de Franz sont évidemment crédibles, extrêmement crédibles. Elles corroborent finalement la réflexion, l'imagination qu'ont les gendarmes de ce dossier depuis le début.
Devant Diane, les gendarmes avancent leurs pions et commencent par les 2 tentatives de meurtre.
Évidemment, les gendarmes vont évoquer ces deux préparatifs, l'empoisonnement et le tueur à gages. Elle va contester.
Concernant cette poudre maléfique venant de Madagascar qu'aurait été cherchée Franz Diegelmann, voici ce que Diane répond.
Si je voulais tuer mon mari, pourquoi je ne le tue pas sur place? Parce que je partais 2 ou 3 fois par an à Madagascar. Pourquoi je vais faire ramener ça en France et donner à Diegelmann de le faire? Pour quelle raison? Donc ça ne tient pas la route.
J'ai une dizaine de coups de fil dès le lendemain de votre...
Puis, les enquêteurs parlent à Diane du tueur à gages. Mais là aussi, elle dément connaître cet homme.
Oui, que toi, Corse, je ne le connaissais pas. Lui non plus, nous ne le connaissions pas. Et ce genre de personnage, ce n'est pas ma fréquentation, donc... Non.
Les gendarmes procèdent à des vérifications et concernant le tueur Corse, Diane a dit vrai. Quant à la théorie de l'empoisonnement, survenue dans les mois précédant le meurtre, rien ne permet de savoir si elle a vraiment eu lieu.
Le poison, on va faire des expertises toxicologiques et puis on s'apercevra qu'il n'y a aucun poison dans le corps de Paul de Missler.
Reste ce fameux croquis du parking du Vénusia qui, selon Franz Diegelmann, aurait été dessiné par Diane Missler. Le document est passé au peigne fin. Et là encore, les conclusions des experts sont sans équivoque.
Expertise graphologique, ce n'est pas l'écriture de Diane. Expertise.